Bienvenue sur Inter, nous sommes le mercredi 11 novembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les poilus entrent au Panthéon. 102 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'écrivain combattant Maurice Genevoix symbolisera le courage et la souffrance de ces millions de soldats. Et on en parlera justement à 7h50 avec vos invités, Léa Salamé.
Oui, deux artistes immenses. Ils ont été choisis par Emmanuel Macron pour accompagner avec leurs œuvres l'entrée au Panthéon Boris Genevoix. Le plasticien Anselme Kiefer et le compositeur Pascal Dustapin nous font une visite au Panthéon en avant-première à 7h50.
Et à tout à l'heure, Léa, ici même en studio. Les autres titres, Agnès.
L'épidémie de Covid avec des médecins généralistes débordés, reportage en Savoie. Des députés proches d'Édouard Philippe proposent d'isoler les malades sous peine d'une amende de 10 000 euros. Pour la première fois, Joe Biden évoque l'attitude embarrassante de son adversaire malheureux à la présidentielle. Et puis Steve Mandanda, historique gardien de but de l'équipe de France.
Le Zoom, ça ce sont vos rendez-vous. Le Zoom à 7h15, reportage bouleversant, ne le manquez pas. Signé Thibault Lefebvre avec les sinistrés de la vallée de la Roya. À 8h20, le grand entretien. Avec Léa, nous recevons tout à l'heure le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. Il publie « L'équilibre est un courage » chez Fayard. Et vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000.
France Inter. Joseph Etchinou.
Henri Buschetti.
Auguste Apollinaire.
Eugène Alexandre Botelier de Poix.
La musique signée Pascal Dussapin est une œuvre originale, créée donc pour l'entrée au Panthéon ce soir de Maurice Genevoix, écrivain de la Grande Guerre, auteur de Ceux de 14, terrible récit de la vie dans les tranchées. Emmanuel Macron rendra hommage à ce soldat devenu écrivain, mais également aux morts anonymes dont 15 000 noms sont lus par des comédiens. Une cérémonie qui mêlera donc mémoire et art contemporain avec le plasticien allemand Anselme Kiefer que l'on retrouvera à 7h50 avec Léa Salamé. Et puis dans tous les villages de France, depuis 102 ans, on célèbre chaque année la fin de la Première Guerre mondiale. 1,5 million de morts en France, entre 8 et 10 millions dans le monde. Il n'y a plus aujourd'hui de survivants de la Grande Guerre, plus de poilus. Covid oblige, les cérémonies seront réduites cette année au strict minimum. Un crève-cœur, Yann Gallig, pour les anciens combattants.
Ni musique militaire, ni public, seulement quelques élus locaux, représentants de l'État et de l'armée. Ces cérémonies commémoratives ne rassembleront pas plus d'une dizaine de personnes devant les monuments aux morts. À Châlons-en-Champagne, il n'y aura même pas de porte-drapeau. Au grand désarroi d'Yves Frisch, le président du comité local des anciens combattants.
En 14, il y a plein de gens qui sont morts. On les a envoyés se faire tuer. Et puis là, aujourd'hui, on ne peut pas les honorer. Tout ça à cause du Covid. On pouvait au moins avoir quelques représentants du monde combattant. L'année 2020, on n'a pas été souvent honoré nos morts. Hein.
En pleine épidémie de Covid, ces restrictions permettent de protéger les anciens combattants, aujourd'hui âgés, qui font partie des personnes à risque, explique Antoine Carangeau. Il dirige l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la Marne.
Nos anciens attendaient bien évidemment cette date. Ne pas assister à ces cérémonies, pour eux, c'est peut-être une forme de mémoire qui ne s'accomplit pas. Dans certaines communes, il y aura quand même quelques anciens combattants, au moins un représentant et parfois un porte-drapeau. Il est primordial que ce lien puisse se maintenir, d'autant plus dans une période telle que celle que nous vivons.
Certains événements emblématiques ont carrément été annulés, comme dans la célèbre clairière de l'armistice à Compiègne, où il n'y aura pas de cérémonie pour la première fois depuis 1943.
Et une cérémonie aura bien lieu à 11h en strict comité au pied de l'Arc de Triomphe devant la tombe du soldat inconnu installé il y a tout juste 100 ans, puis à 18h, début donc de la cérémonie d'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix.
Il est 7h04, Agnès, un conseil de défense demain sur la crise du Covid avant une intervention du Premier ministre.
Car la deuxième vague progresse toujours, a insisté en début de semaine Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Plus de 300 000 morts en Europe, dont plus de 42 000 en France, avec 400 472 décès ces dernières 24 heures à l'hôpital, 472 également nouveaux patients admis en réanimation. En première ligne également, les médecins généralistes. Reportage en Savoie, l'un des quatre départements les plus touchés de France, avec plus de 1000 cas pour 100 000 habitants. Reportage près de Chambéry, signé Rémi Brancato.
Pour les 6 médecins de ce cabinet de Saint-Baldoff, les journées sont chargées.
Bonjour.
Le docteur Gaël Chabert enchaîne consultations et téléconsultations.
Vous n'êtes pas vraiment considéré comme cas contact pour
l'épidémie de Covid est omniprésente et il faut rassurer les patients.
Nous, on a de la chance d'avoir des secrétaires qui font le tri.
Elle travaille donc avec des enfants.
100 à 150 patients passent ici chaque jour avec 30 à 50% de malades du Covid-19 désormais. Alors il a fallu adapter l'organisation, explique Jean-Louis Vangy, médecin généraliste lui aussi.
On s'arrange pour mettre des créneaux horaires dédiés au Covid de façon à pouvoir désinfecter nos cabinets. Les patients fortement suspects de Covid, souvent on leur demande d'attendre dans leur voiture. C'est beaucoup plus de travail.
D'autant que cette deuxième vague ici est en fait une première pour Jean-Louis Vangy qui préside aussi l'ordre départemental des médecins. Lors du premier confinement, la mairie avait créé un centre pour les malades du Covid dans une salle municipale restée presque vide.
Ce centre n'a quasiment pas fonctionné. Quelques poignées de patients. C'est certainement aujourd'hui que nous en aurions besoin, mais c'est difficile de remettre en place toutes ces structures. On ne pensait pas que nous, en Savoie ici, nous serions impactés à un tel niveau. La première vague nous avait finalement épargnés et la deuxième vague nous a frappés de plein fouet.
Après plusieurs dizaines d'années de carrière, le médecin reconnaît qu'il n'avait jamais vécu une telle crise.
Reportage de Rémi Brancato. Et pour tenter de freiner les contaminations, le ministre de l'Intérieur a écrit aux préfets pour leur demander de durcir l'application du confinement. Nous y verrons dans le journal de 8 heures. Les députés du groupe Agir, proche d'Édouard Philippe, proposent de leur côté 30 mesures pour apprendre à vivre avec le Covid. Ils prônent par exemple la réouverture des magasins dits non essentiels. Ils prônent également un isolement plus strict des personnes testées positives. Le détail de ces propositions avec Laurence Perron.
La phrase de Sénèque, en exergue de ses 30 propositions, donne le ton. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Pour ces députés proches d'Édouard Philippe, qui ont quitté les LR pour aider le président de la République, on se trompe de politique face au Covid. Ils font actuellement du lobbying pour réconcilier, disent-ils, santé et économie, avec notamment cette mesure, isoler de manière drastique les cas Covid positifs. Une amende de 10 000 euros en cas de transgression. Mais en échange, on leur proposerait un confinement, pourquoi pas dans des hôtels, avec le renfort de la réserve du service civique. Olivier Véran n'y serait pas défavorable, selon eux. Il l'avait en tout cas en tête dimanche dans Questions politiques sur France Inter.
Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accepter démocratiquement des mesures de contrôle des personnes qui seraient mises à l'abri ? J'ai vu des situations de clusters, notamment en entreprise, que certaines personnes, bien qu'elles se sachent positives, mais asymptomatiques, avaient fait le choix de quand même retourner travailler.
Les députés du groupe Agir assurent pouvoir compter sur le soutien du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Ils estiment que les atermoiements du gouvernement, les stop and go et la fermeture des petits commerces pourraient coûter très cher politiquement à Emmanuel Macron. Ils déposeront une proposition de loi si le Premier ministre ne les entend pas demain.
Un commerce non essentiel, les grands magasins fermés depuis fin octobre et qui pour certains ne rouvriront que pour mieux fermer définitivement. 4 magasins Printemps et 3 Citadium, propriété du même groupe, vont ainsi disparaître. Près de 450 postes menacés et des syndicats, Maxime Debs, qui dénoncent une opération prévue de longue date.
La brutalité de l'annonce et sa forme, le printemps n'a d'autre choix, est obligé de se transformer, de s'adapter, d'assurer sa pérennité. À la lecture du communiqué de leur direction, les syndicats hier soir avaient bien du mal à tempérer leur colère. Ils préparent ça depuis longtemps, c'est mûri, réfléchi. Et la Covid est l'occasion rêvée, commente un syndicat a classé habituellement parmi les modérés et qui évoque hors micro une expertise qu'aurait commandé la direction bien avant cette année à un cabinet privé pour évaluer la santé du groupe. Information que l'équipe dirigeante se refuse à confirmer. Elle reconnaît toutefois une situation devenue des plus compliquées au fil des années, avec 15% de chiffre d'affaires perdu en 5 ans selon un cadre du printemps et un virage, celui du e-commerce, que le groupe a tardé à prendre. L'achat en ligne ne représente que 6% des ventes aujourd'hui. L'objectif, c'est 15 à 20% à l'avenir. Pour ça, la direction veut investir et ça passe, explique-t-elle, par des économies par ailleurs, la mutualisation de certaines fonctions support et donc la fermeture de magasins.
Et sont concernés les prétendants de Strasbourg, du Havre, de Metz et du centre commercial des Italiens à Paris. Et puis l'association UFC Que Choisir annonce, étude à l'appui, que les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables, supportant 10 lavages à 60 degrés.
degrés.
Il est 7h10 aux États-Unis. Agnès, Joe Biden prépare activement sa future présidence.
Journée diplomatie hier pour le vainqueur de l'élection présidentielle. Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec Angela Merkel, Boris Johnson, le Premier ministre irlandais et Emmanuel Macron, à qui il a déclaré vouloir redynamiser les liens avec l'OTAN et l'Union européenne. Et pour la première fois, le vainqueur a évoqué l'attitude du vaincu. Loïc Loury est à New York pour France Inter.
Monsieur le Président, j'ai hâte de parler avec vous. Joe Biden, fidèle à son image de rassembleur, semblait hier tendre la main à son adversaire. Dans la foulée, toutefois, il s'est enfin exprimé pour critiquer le refus de Donald Trump de reconnaître sa propre défaite.
C'est une source d'embarras, ça n'améliorera pas l'héritage du président.
Mais le président-élect en profite pour s'adresser aussi aux électeurs du patron de la Maison-Blanche. Cette moitié d'Amérique qui a suivi Donald Trump et avec qui le fossé s'est élargi ces quatre dernières années.
Mon espoir est que les Américains sachent qu'il y a eu une transition, même parmi les républicains, ceux qui ont voté pour le président. Je comprends le sens de cette défaite, mais je crois qu'ils savent que nous devons nous rassembler. Je pense qu'ils sont prêts à s'unir.
Joe Biden précise toutefois que la situation n'a pas beaucoup d'impact sur le programme de son équipe de transition. Celle-ci, dit-il, est déjà enclenchée, évoquant notamment la composition de son futur cabinet ou les coups de fil passés à des dirigeants étrangers. L'Amérique, a-t-il assuré, est de retour sur la scène mondiale. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les États-Unis qui ont enregistré hier un nouveau record de contamination, plus de 200 000. À 50 jours du Brexit et alors que les négociations patinent, la filière agroalimentaire française s'inquiète du risque d'importation en Europe via la Grande-Bretagne de produits américains aux standards sanitaires douteux, poulet au chlore ou bœuf aux hormones, rappelant que ni les consommateurs ni les producteurs européens ne pourraient accepter des produits ne répondant pas aux normes en vigueur dans l'Union. Enfin, France-Finlande ce soir au Stade de France avec un Steve Mandanda fier de son statut d'ancien. Steve Mandanda n'a que 35 ans, mais il est le plus âgé du groupe France. Il sera ce soir dans les cages pour ce match amical contre la Finlande avant le match contre le Portugal samedi en Ligue des Nations. Cédric Guillou.
Les sélections passent et Steve Mandanda est toujours là. À 35 ans, le gardien marseillais fêtera ce soir sa 34e sélection en bleu. Lui qui compte 141 apparitions sur une feuille de match en équipe de France.
En présence, il doit avoir le record de sélection, je pense.
Le sélectionneur Didier Deschamps.
Bon, il est à un poste où les années posent moins de problèmes. Gardien de but, il subit pas les événements. Il fait en sorte d'être dans la positivité et de tirer le groupe vers le haut.
Même s'il n'a jamais été considéré comme un véritable titulaire chez les Bleus, Steve Mandanda est devenu au fil des saisons un cadre en équipe de France. C'est notamment un lien pour les nouveaux internationaux qu'il n'hésite pas à conseiller lorsqu'il débarque chez les Bleus.
Je dis toujours la même chose, c'est de profiter, de prendre du plaisir et puis de tout donner. À partir de là, ça va forcément bien se passer.
Et Steve Mandanda en a vu arriver plusieurs, comme Paul Pogba, Kylian Mbappé, et pour ce rassemblement, Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, avec qui il avait honoré sa première sélection en équipe de France le 27 mai 2008 contre l'Équateur.
France-Finlande, coup d'envoi à 21h10.
Merci Agnès Soubiran.